bien le bonjour, chers amis. Je suis Martin, étudiant en histoire et anthropologie à l'École normale supérieure et à l'École des hautes études en sciences sociales. Asseyez-vous donc au coin du feu ou sous un rayon de soleil et laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de l'île Dieu. Vous ne vous êtes jamais demandé, vous, pourquoi la pointe des corbeaux s'appelait la pointe des corbeaux ? Je veux dire, après tout, il n'y a pas de corbeaux sur l'île Dieu. À peine quelques corneilles. Qu'est-ce que les corbeaux viennent faire là ? Pour répondre à cette question, les historiens font habituellement appel à Strabon. Strabon, c'est un grec, un géographe. Il voyage à travers tout l'Empire romain pour documenter les traditions locales de l'Antiquité. Il lit beaucoup également, et l'ensemble des récits qu'il a lus et entendus, il les condense dans une encyclopédie, les Geographica. Et parmi cette masse de légendes, il en rapporte une, qu'il tient lui-même d'Artémidore, et qui met en scène des corbeaux. Sur la façade atlantique de la Gaule, il y aurait une pointe rocheuse où l'on se rend quand on a un litige. Vous avez empiété sur le champ de votre voisin ? Vous accusez votre femme d'infidélité ? On vous soupçonne d'empoisonnement ? Eh ben, vous vous rendez sur cet éperon rocheux. Les deux personnes concernées par le litige apportent, chacune, un gâteau. Donc vous déposez vos deux gâteaux sur une planche en bois, devant la mer. Alors, des corbeaux vont s'approcher, appâtés par le repas qui leur est offert. Si c'est votre gâteau qui est dévoré le premier, vous gagnez votre procès, félicitations. Mais si les oiseaux le dédaignent, eh bien, je suis désolé pour vous, mais vous êtes déclaré coupable. C'est ce qu'on appelle une nordalie, un jugement des dieux. Eh bien, on tiendrait pas là l'origine de notre pointe des corbeaux ? L'épisode est déjà fini ? Bah, désolé de vous décevoir, mais non. Strabon précise bien que cette scène se déroule sur le continent. Rien à voir avec l'île Dieu. Mais c'est tout de même la bonne piste. Suivons-la. Elle nous mènera jusqu'au pays des morts et même au-delà, sur la trace de l'origine de la pointe des corbeaux. Historia Oya, l'épisode où les corbeaux se pointent. Explique-t-il l'origine du nom de la pointe des corbeaux ? Eh bien, il y a une légende. Cette légende est attestée pour la première fois au XVIIIe siècle, et elle veut qu'en des temps immémoriaux, les sorciers de l'île se réunissaient sur cet éperon sauvage. Une fois l'année, surgissaient deux corbeaux, ayant une aile blanche et une aile noire. S'ils se dirigeaient vers le sud, c'est que la mer sera belle. S'ils vont vers le nord, c'est qu'une tempête ne va pas tarder. Une sorte de sémaphore de l'époque. En réalité, la métaphore est ici assez simple à comprendre. Il est connu depuis les débuts de la navigation sur l'île Dieu qu'un vent de nord est un bon signe, alors qu'un vent de sud annonce un temps agité. Mais alors, pourquoi parler de corbeaux ? Alors certes, dans l'Antiquité, déjà, on sait que les Grecs utilisaient les oiseaux comme baromètres. L'hirondelle et le milan marquaient l'arrivée du printemps, les chants du coucou et des corneilles pouvaient annoncer la pluie. Mais bon, quand il s'agissait de prévisions maritimes, les Grecs se référaient surtout aux oiseaux marins et migrateurs. Ainsi, certains Grecs s'imaginaient que c'était les grues qui avaient enseigné aux hommes la navigation à voile, en leur montrant comment se diriger en fonction des vents. Si on suit cette logique, les sorciers ilais devraient utiliser des pétrels, des goélands ou des sternes pour connaître la météo. Surtout que, je vous le rappelle, aujourd'hui il n'y a pas de corbeaux sur l'île Dieu, ce sont simplement des corneilles. Mais l'affaire se complique encore. D'après la tradition, les Ilais ne supportaient pas la violence faite aux corbeaux. D'après un capitaine du 19e siècle, un Anglais ayant tué un corbeau sur l'île-Dieu aurait failli être mis à mal par les habitants. Bon, les Ilais aiment bien les oiseaux, rien de nouveau sous le soleil, ils ont toujours beaucoup apprécié les animaux. Mais pourquoi parle-t-on toujours de corbeaux ? Et puis, qui sont ces sorciers censés se réunir à la pointe des corbeaux ? Les sorciers n'ont jamais existé que dans l'esprit des inquisiteurs de l'église catholique, toujours prêts à faire rôtir sur le bûcher le premier bonhomme un peu libre d'esprit. Non. Pour comprendre le mystère de la pointe des corbeaux, il faut remonter avant l'église, même avant les Romains, au temps où l'île Dieu était gauloise. Car, n'en déplaise aux inquisiteurs, l'île Dieu n'a jamais vraiment arrêté d'être païenne. Welcome back to the days of old, where the men are men and the women are sold. Unwilling sacrifice, I'll fuck you for a price. They kill them young so they never get old. They lock the door. Les légendes impliquant les corbeaux sont nombreuses à l'île Dieu. Certes, la plupart d'entre elles sont sûrement des forgeries de voyageurs hableurs et d'érudits locaux fantaisistes. Pourtant, cette obsession des corbeaux a un fond de vérité. À l'époque où le géographe grec Strabon parcourait l'Empire romain, l'île Dieu était encore imprégnée de culture celtique. Les Celtes, c'est une population qui a répandu sa langue, sa structure sociale aristocratique et sa spiritualité druidique dans une bonne partie de l'Europe au cours du premier millénaire avant notre ère. De l'actuelle Turquie à l'Irlande en passant par la Germanie et l'Espagne, ils ont semé leur culture un peu partout, y compris jusqu'à l'île Dieu, qui, à l'époque, dépendait des Pictons. Les Pictons, c'est un peuple gaulois dont nous parlerons dans un prochain épisode. Mais pour l'instant, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les Ilais, avant l'arrivée des Romains, c'était des Celtes. Et les Celtes, ils aiment beaucoup les corbeaux. Vous savez sûrement que les corbeaux aiment à dévorer les cadavres. Et dans l'Antiquité, après une bataille, il faut vous imaginer que les cieux étaient remplis de ces volatiles noirs, prêts à se repaître des morts. Loin de voir cela comme une profanation, les Celtes, peuple guerrier s'il en est, pensaient que les corbeaux venaient chercher l'âme de ceux qui ont connu une mort glorieuse, pour les amener dans l'au-delà. À l'image des Valkyries dans la culture scandinave, ils jouaient le rôle de psychopompes, c'est-à-dire qu'ils étaient censés guider les âmes des morts dans leur voyage. À partir de ce noyau de croyances se sont développées de nombreuses pratiques. On enterrait les morts avec des crânes ou des plumes de corbeaux, un corbeau de bronze surmontait le casque des chefs de guerre, une fête, l'équivalent de notre Toussaint ou du jour des morts mexicains, était consacrée aux corbeaux. C'était corbeau à toutes les sauces. À l'île Dieu, l'extrémité occidentale des terres celtiques, on ne peut qu'imaginer les formes qu'ont pu prendre ces cultes des corbeaux. Néanmoins, tout comme les Fras avaient le droit à leur rocher, il est naturel qu'on ait nommé une pointe en leur honneur. Si l'on raconte que des sorciers s'y réunissaient, c'est peut-être qu'on se souvient encore des rituels druidiques qui pouvaient y avoir lieu. À moins que, même après l'arrivée de la religion chrétienne et de ses inquisiteurs, certains Ilais aient conservé leurs pratiques païennes. Dans tous les cas, cela permet de relire les légendes. Des corbeaux blancs prévoyant la météo, des Ilais condamnant à mort ceux qui tuent des corvidés, cela fait écho à des textes antiques décrivant les pratiques des Celtes. Ainsi, si ces histoires sont certainement fictives, elles relèvent sans doute autant d'une mémoire populaire des rituels anciens que d'un fantasme d'érudits locaux. C'est la résistance de l'imaginaire celtique face au rouleau compresseur de la religion chrétienne. Je dirais même que si les lieux n'abritent plus de corbeaux aujourd'hui, cela n'a peut-être pas toujours été le cas.
Je ne regrette pas mon nid ou mon plumage tacheté de gris qui vire maintenant au vermillon. Je ne verrai plus les saisons. Je ne regrette pas ma coquille, mon œuf, ma branche, le ciel qui brille. Je finis ma vie entre des crocs, moi qui l'ai commencé bien haut. Ma faim, je suis pas déçue. Le chat m'a eu, on s'attendait.
La pointe des corbeaux a probablement reçu ce nom pendant la protohistoire celtique, lorsque les corvidés étaient célébrés comme les guides des âmes des morts dans l'au-delà. Une partie de cet imaginaire a pu survivre et ressurgir sous forme de légende sur l'île. Cependant, les corbeaux, eux, n'ont pas eu la même chance. Si de nos jours il n'y a pas de grands corbeaux sur l'île Dieu, ni même en Vendée, même pas dans tout le Poitou et les Pays de la Loire, il est fort à parier que ce n'était pas le cas dans l'Antiquité. Les légendes avaient alors un fondement bien concret. Mais alors, qu'est-il donc arrivé à ces pauvres volatiles ? La réponse tient en un seul mot. Charlemagne. Mais avant d'en venir à Charlemagne, il nous faut retourner à la fin de l'Antiquité. Les Romains étaient globalement ouverts d'esprit en matière de religion, et pourvu que vous ne fassiez pas de sacrifices humains, ils vous laissaient tranquille. Ils n'avaient aucune raison d'embêter les corbeaux sacrés des Gaulois, d'autant plus que même révéraient l'oiseau en tant que messager du dieu Apollon. Les choses changent radicalement avec l'arrivée du christianisme. Le corbeau devient un animal diabolique, associé au culte païen qu'il faut détruire. Les colonies de corbeaux sacrés deviennent des rivaux potentiels de l'église naissante. En 313, l'empereur Constantin fait entrer le christianisme dans la vie des Romains. Tout commence alors à se précipiter. Alors que l'empire romain se délite, le christianisme devient un enjeu central des luttes de pouvoir. Les évêques peuvent faire et défaire les seigneurs, dont ils sont souvent les frères ou les cousins. Pendant ce temps, la majorité de la population, elle, reste hostile ou au mieux neutre vis-à-vis de ces étranges prosélytes qui parlent d'un dieu qui est mort et dont il faut manger le corps et boire le sang. Les puissants renchérissent alors de piété pour s'attirer les bonnes grâces du clergé. Et, dans cette catégorie, le champion absolu, médaille d'or, est Charlemagne. Charlemagne se fait sacrer empereur par le pape et part d'Eurechef à la conquête de la Germanie. En termes d'évangélisation, il ne fait pas dans la dentelle. Pour prouver que son dieu est le meilleur, la solution est simple. Écraser ceux des autres. Alors, partout où il passe, il abat des arbres millénaires des druides pour en faire des charpentes d'église, et surtout, il massacre des colonies de corbeaux à tour de bras. On peut aisément imaginer que des milliers de corbeaux français ont pu subir ce sort. Peut-être l'île-Dieu avait-elle sa propre colonie de corvidés avant que n'arrivent les évangélisateurs carolingiens. Mais, non content de commettre un écocide, l'Église chrétienne en a profité pour effacer le souvenir de cette période. Ainsi, elle remplace la fête des corbeaux par une fête des morts chrétienne, la Toussaint, pâle copier-coller des traditions druidiques. À l'île Dieu, la seule trace de cette époque serait le nom de la pointe des corbeaux. À moins que les légendes dont nous avons parlé soient bel et bien la résistance des petites gens, de ceux qui vénéraient les corbeaux, face aux joues de fer de l'église conquérante et de son champion, Charlemagne le massacreur d'oiseaux. Après tout, les Ilais ont toujours eu un esprit rebelle pour défendre leurs traditions face aux puissants qui sont venus du continent pour leur dire qui vénérer et à qui payer des impôts. Les corbeaux ne seraient alors que l'un des symboles de cette résistance.
Dieu que cette histoire finit mal, On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal. Quand elle a commencé si bien, on imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.
C'était Historia Oya avec votre serviteur Martin. Merci de m'avoir accompagné pendant cette exploration de l'histoire de l'île-dieu. On se retrouve très vite sur les ondes de Neptune. Et en attendant, vous pouvez découvrir d'autres podcasts d'Historia Oya sur le site neptunefm.com.
Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.